Monobloc, c'est une radio, mais c'est aussi une carte. La carte qui se trouve sur le site depuis lequel vous nous écoutez. Cette carte qui répertorie un certain nombre de lieux, des lieux réels, d'autres lieux inventés, mais des lieux qui existent tous sur Monobloc. Monobloc est donc une carte, et il se trouve qu'il y a, à Monoblet, la personne à aller voir pour passer de la carte au voyage, du trait à la route, pour surligner un soir des lacets à la lampe frontale sur une carte Michelin et rechercher les plus belles routes de Crète. Olivier a construit chez lui un mur de cartes. Il dessine pour lui et pour les autres des itinéraires en recherchant la meilleure route. Et en l'écoutant, vous entendrez un peu de l'endroit où on se trouve. Vous entendrez ce qu'est la perdition organisée, mais aussi pourquoi la route est un cinéma.
Quand on partait en vacances l'été, quand j'étais môme, en fait, on partait toujours le soir pour rouler une partie de nuit. On avait une caravane. Et donc mon père, il démarrait à la nuit, là, vers 21h, 22h, et il roulait jusque vers 2h du matin. Et on se devait se garer sur un parking, dormir dans la caravane attelée, puis continuer le lendemain le voyage pour les vacances. Et alors évidemment, ils faisaient ça mes parents, parce qu'ils espéraient que leur môme allait dormir pendant ce temps-là. Mais moi, j'étais tellement excité de partir en vacances et de savoir où on allait, qu'en fait je dormais pas, je regardais la route tout le long de la nuit, comme ça, en essayant de voir les panneaux indicateurs, d'essayant de me situer comme ça, mais pas géographiquement, mais plutôt comme une espèce de rêve, comme ça, un nom de ville inconnu, on va dans cette direction, etc., mais jusqu'au moment où je m'endormais, quoi. Et puis après, ben, quand on était arrivé le lendemain ou le surlendemain là, au lieu de vacances, ben, je voulais mesurer un peu ce qu'on avait fait là, depuis la maison, etc. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux cartes, parce que dans la voiture, il traînait des cartes. Et j'ai commencé à passer pas mal de temps à regarder des cartes à ce moment-là, donc assez jeune, je sais pas, vers 7-8 ans.
Il y a un mur de ta maison qui est un peu particulier. Est-ce que tu peux me le décrire ?
Oui, il y a un mur de cartes, oui. Il y a
un mur. Qu'est-ce que ça veut dire, un mur de cartes ?
Ben, il y a les cartes nationales de Michelin, c'est-à-dire celles qui représentent les pays sous à peu près un mètre carré, enfin les pays à taille égale, c'est l'Europe de l'Ouest, donc... Un millionième, un centimètre représente 10 kilomètres. Et donc, bah oui, il y a l'Europe de l'Ouest jusqu'à la moitié de la Pologne, l'extrémité de l'Autriche et pas mal de Croatie.
Pourquoi t'as installé ce mur ? Pourquoi t'as besoin de voir ces cartes ?
Parce que le problème, c'est que je voyage pas autant que je voudrais. Alors les cartes, ça me permet de voyager un peu plus. Et puis surtout... Je travaille beaucoup les cartes dans les détails et il y a un moment, important de voir les choses dans leur ensemble. Et comme déplier une carte, ça demande toujours beaucoup de place et qu'il en faut plusieurs, qu'il faut qu'elle soit jointive, etc. Je trouve que c'était beaucoup plus pratique de mettre toute cette Europe de l'Ouest une fois pour toutes sur le mur. Et comme ça, je m'y réfère quand j'ai besoin, comme une sorte de tableau permanent.
Quand je t'ai posé cette question, t'as commencé à parler du voyage. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes une carte ?
On peut imaginer des paysages, mais c'est quand même assez difficile parce qu'il y a peu d'informations. Moi, j'utilise beaucoup des cartes routières, donc il y a peu d'informations de type végétation sur ces cartes, à part les massifs forestiers. Après, il y a des choses qui peuvent être déduites par aussi le fait que je connais bien le paysage, les sillonner. En tout cas, je vois... Un espace, ça c'est sûr, et ce que je ne vois pas, c'est les gens en fait, les gens qui sont sur ce territoire. La particularité d'une carte, c'est que c'est un territoire vide en fait. C'est assez drôle d'imaginer quand on voit la double bande d'une autoroute sur une carte, bah c'est un trait graphique qui va joindre deux pôles urbains et qui vont être dans une logique d'organisation de l'ensemble assez cohérente, mais qui est une abstraction comme ça. Mais en fait, à l'instant T, cette autoroute est pleine de gens et ils ne sont pas sur la carte. Alors c'est assez plaisant parce que de toute façon, quand je voyage, moi je voyage sur des petites routes, c'est-à-dire où il y a peu de gens. Alors peut-être la carte, ça permet peut-être d'avoir un paysage désert.
Dans la géographie, il y a un type de route qui t'intéresse particulièrement, c'est les routes de Crète. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Ben, l'avantage des routes de Crète ou des routes de montagne dans leur partie haute, c'est la vue qu'elles dégagent. C'est-à-dire que là, on est. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est entre le paysage et la carte. Quand on est au Mont Aigoual, on voit par temps clair quasiment un quart de la France, donc on est dans le, déjà dans le cartographique, c'est-à-dire que à part être sur le Mont-Aigoual pour voir, ou dans un avion ou un hélicoptère, c'est-à-dire quelque chose qui quitte le territoire, la seule façon de rendre compte de ce qu'on voit est la carte, quoi, où on peut... En fait, la carte et la route de crête permettent de dominer le territoire ou d'avoir le sentiment de le dominer.
C'est drôle parce que là, tu parles de domination. Je me souviens qu'un jour, quand on avait discuté de route de crête, tu m'avais dit que ce que t'aimais aussi, c'était le fait d'être à un point d'équilibre ou de déséquilibre, mais en tout cas d'être entre deux.
Oui, bon, enfin, de toute façon, la domination, c'est toujours un équilibre. Hein. C'est justement savoir rester sur l'équilibre.
Est-ce que parfois tu regardes des cartes d'endroits où tu n'es jamais allé et où probablement tu n'iras jamais ?
Je ne veux pas penser à cette idée que probablement je n'irai pas quelque part, même si il est évident que je n'irai pas partout. Oui. Le problème, c'est que il est très difficile de trouver des bonnes cartes de contrées éloignées. Souvent, on trouve ces cartes dans les pays eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'Europe à cause de la facilité de se procurer les cartes. Et puis déjà, on a aussi en Europe une telle diversité sur un tout petit territoire. Je pense que c'est peut-être l'endroit où il y a une telle concentration de diversité architecturale, urbanistique. Puis même quand on passe d'un pied à l'autre, les signalisations de route ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes couleurs. La police de caractère non plus n'est pas la même, il y a des majuscules, il y en a qui écrivent en minuscules. Par contre, les cartes, elles, sont assez universalisées, hein, parce que quand une carte couvre plusieurs pays, et c'est toujours le cas, parce qu'en général, on a toujours les parties voisines du pays. Par exemple, sur la carte de France, vous avez un bout du nord de l'Espagne, un bout de l'extrême nord-ouest de l'Italie, etc. Donc elles sont cartographiées comme l'est la France sur cette carte. Donc il y a une espèce d'universalisation qui n'est pas sur le territoire. Tout à l'heure, on parlait de la carte pliée, de la carte dépliée. Il y a une chose aussi très étonnante, c'est de voir comment la majorité des gens ont du mal à replier correctement une carte quand elle a été dépliée une fois. Et c'est assez curieux, parce qu'en général, les plis restent assez marqués. J'ai encore jamais essayé de repasser une carte, quoique ça doit être peut-être possible, mais... Quoique j'en ai roulé des fois sur des rouleaux des longs moments et on arrive à atténuer les plis quand même. Et voilà, ce coup du pli qu'on ne peut pas reconstituer après l'avoir déplié, c'est assez étrange parce que c'est comme une espèce d'infidélité de la carte au territoire ou de soi-même à la carte, où on ne peut pas la rendre comme elle était avant qu'on l'ait usitée. C'est assez étrange.
Est-ce que tu as un souvenir particulier de route de crête que tu as découvert et tu te dis là j'ai trouvé quelque chose?
Oui, ben c'était récemment, je trouve, c'était au Portugal, là, dans le nord, centre-nord du Portugal. Là, il y a des routes de crête très très étonnantes. J'en ai trouvé une qui doit faire 45 km sans discontinuer, avec un apic à droite, un apic à gauche, pratiquement tout le long. Et alors ça, c'est donc au Portugal, et c'est dû aux éoliennes, en fait. C'est un pays où il y a beaucoup d'éoliennes, elles sont mises sur les crêtes, et dans un premier temps, ils font des chemins techniques, des chemins blancs pour aller desservir les éoliennes, mais il y a un moment, elles sont goudronnées, ça devient des routes de crête. L'avantage de la route de crête, c'est qu'elle permet de faire une longue distance assez rapidement. C'est un peu comme en plaine, puisque en général, elle est orientée dans une direction, comme la montagne, et on n'a pas vraiment beaucoup de virages. Il faut faire gaffe de ne pas sortir de la route, évidemment, mais on n'a pas beaucoup de virages. Donc en fait, on avance assez bien, en fait, beaucoup plus que dans l'ascension ou la descente d'un col.
Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que ça implique dans le fait de vouloir profiter de la route elle-même.
Ah oui, mais c'est sûr, il y a des tas de gens qui voyagent en essayant d'abstraire le plus le côté physique du voyage entre chez eux et leur destination. Ils veulent que ça soit le plus rapide possible, les avions, etc. Moi, ce que je fais, ça implique qu'en fait, que le voyage, il commence pas exactement à la porte de chez soi, parce que les 200 premiers kilomètres, en général, on connaît bien. Et puis, on est encore omnibulé de qu'est-ce qu'on a pu oublier, est-ce qu'on a bien tout fermé, enfin, voilà, on est encore là. Mais après, ça commence vraiment, quoi. C'est-à-dire que et c'est la progression dans le paysage qui constitue le voyage lui-même, en fait. Et ces arrêts, évidemment, parce qu'il faut dormir, manger, donc on se retrouve dans des endroits. C'est ça qui est génial, c'est qu'on se retrouve dans des endroits où on ne pouvait pas avoir décidé d'aller. C'est-à-dire que quand on arrive en fin de journée dans un village de tel pays d'Europe et qu'on cherche à dormir et à manger là, eh ben on se retrouve dans un endroit qu'on n'avait pas décidé. C'est ça qui est formidable.
Et alors, pendant tout ce temps où tu conduis, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, je ne sais pas combien d'heures par jour.
Oui, plutôt une dizaine, ouais.
Pendant cette dizaine d'heures où tu conduis, qu'est-ce que tu fais?
Ah ben je dévore le paysage en fait, au point même que il faut que je fasse gaffe parce que des fois j'oublie de regarder la route devant moi, c'est-à-dire essentielle à la conduite quoi, pour pas se planter, entre autres dans les descentes de col, faire vachement gaffe parce que tout à coup t'as une épingle à cheveux qu'il faut prendre à 20 à l'heure, là tu t'es laissé descendre à 60 dans la ligne droite et tu regardais à 200 bornes partout, donc... Voilà. Non, mais je dévore en fait le paysage, puis je fais des reports sur carte aussi quand je vois des choses. Parce que l'avantage d'une ligne de crête, c'est que tu vois d'autres lignes de crête, donc tu peux les présupposer. Alors il y a des fois, ça vaut le coup d'aller vérifier, mais c'est toujours beaucoup de détours. Et d'autres fois, un contrôle sur Google Earth quand tu seras rentré suffira. Enfin, il y a des fois, tu crois ça, tu rentres chez toi, tu dis, mais merde, j'aurais quand même dû faire ce détour. Parce que, là, je suis à 2000 bornes et j'y étais, mais.
Est-ce que ça t'arrive de te perdre?
Ben oui, ça m'arrive de me perdre parce qu'il y a des fois, je suppose qu'il y a des routes qui existent et qui ne sont pas cartographiées et que je tente de prendre. Et je me suis déjà retrouvé en assez mauvaise posture, à pas pouvoir continuer à avancer, faire difficilement marche arrière à cause de la pente. Voilà. Mais c'est une perdition organisée en fait. Autrement, me perdre. Bah peut-être sans carte, oui, mais quand même, je les ai bien dans la tête.
Que tu l'appelles Dieu, Deus, Allah, God, enculé, bah y en a qu'un, c'est le même.
Radio Monobloc.
I'm an old cowhand from the Rio Grande, but my legs ain't bowed and my cheeks ain't tan. I'm a cowboy who never saw a cow, never roped a steer 'cause I don't know how, and I sure ain't fixing to start it now. Yippee-yi-yo, ki-yay. Yippee-yi-yo-ki-yay. I'm an old cowhand from the Rio Grande, and I learned to ride, oh, I learned to stand. I'm a riding fool who is up to date. I know every trail in the Lone Star State, 'cause I ride the range in a Ford V8. Yippee-yi-yo-ki-yay. Yippee-yi-yo-ki-yay. I'm an old cowhand from the Rio Grande, and I come to town just to hear the band. I know all the songs that the cowboys know about the big corral where their doggies go, 'cause I learned them all on the radio. Yippee-yi-yo-ki-yay. Yippee-yi-yo-ki-yay. I'm an old cowhand. From the Rio Grande, where the West is wild, round the borderland, where the buffalo roam around the zoo, and the Indians make you a rug or two, and the old bar X is a barbecue. Yippee-yi-yo-ki-yay.
On va se mettre là, mais là c'est un peu mouillé pour la carte. Mais c'est une table avec des trous, non?
Ah ouais,
faut écrire dessus. Non, toi t'as le crayon qui dérape à cause du trou, ça met la marque là où tu voulais pas.
On a envie de la fontaine.
Alors, mais explique-moi ce que vous allez faire du coup là.
Moi je vais lui dessiner un truc qu'il m'a demandé l'année dernière. Il a acheté une carte pour que je lui fasse des balades pour sa chérie. Là dans le coin, dans les Cévennes et dans l'arrière-pays, en gros c'est ça, hein,
si tu m'as demandé. Moi Mimi, si je peux donner un peu de background, ça fait un an que je connais Zoé et je pense que je vais manger le crâne avec Monoblé et les Cévennes depuis un an. Et vu qu'elle vient cet été, l'idée c'est de tout envoyer quoi. Il faut que les Cévennes reluisent de beauté.
Mais tu sais lire les cartes?
Bah c'est pas dit.
Alors, t'as demandé à Jimmy s'il savait lire une carte. Comment on fait pour lire une carte?
Ben, je sais pas, ça c'est un peu. C'est un peu comme si tu demandes à quelqu'un s'il sait lire la musique, qu'il te dit non. Tu dis, ben, faut apprendre le solfège, tu peux pas répondre. Tu peux pas donner la réponse. Hein.
C'est quoi? C'est en termes de code couleur, ben, par exemple?
Non, mais en termes nord-sud, ouais, spatialisation, tout ça. Là, c'est plus repéré quand il y a ça.
Bah ben, là, on est à Montpellier.
Tu veux faire ce côté, tu connais mieux ou tu veux la plaine?
Mais tu sais, je sais même pas comment on s'est foutu les Cévennes.
C'est simple, regarde. Là, c'est quand même simple. Tu vois qu'ici, il y a un type d'iconographie, là. Ici, il y a un autre. Et là, encore un troisième.
Bah, ça me saute pas aux yeux, le type.
Ah, bah si, mais là, c'est très blanc.
Ouais.
On est d'accord. Ouais. Avec très peu de routes, très peu d'infos. Ici, c'est ultra vert, ouais, avec plein d'infos, plein de petites routes. Et ici, on serait dans un truc un peu mixte, quoi. Donc déjà, ça c'est les premières identifications en fait. Donc là, bon, c'est la garrigue, parce que là, ça va au Rhône ou à la mer. Là, on sait que c'est forestier.
Parce que là, c'est très vert.
Ouais. Et là,
c'est blanc.
C'est blanc. Là, tu vois, on a aussi des infos 1204, 1125, 1247, 1006. Donc on est visiblement à un plateau d'altitude, tu vois.
Ouais, ok, d'accord.
Donc ça, c'est les trucs un peu basique de paysage, c'est-à-dire qu'après, quand je vais te faire des tracés là-dessus, ils vont être multiples, mais alors, je vais pas en mettre trop, parce que sinon on voit plus rien, sinon ça va être routes vertes partout, ouais, et tu seras là, mais où est-ce qu'on va, on a trop de choix, et tout ça.
Ouais.
Donc, par exemple, il y a peu de rouge et peu de jaune que je vais recouvrir.
Ouais.
Je vais te joindre.
Jaune, c'est national, départemental.
C'est des grandes départementales, c'est des routes de jonction, quoi.
Ouais.
Quand t'as pas de rouge, et il y en a pas tant que ça.
Mais rouge aussi, c'est départemental, pourtant.
Oui, mais plus. En fait, chez Michelin, c'est les couleurs, elles correspondent au nombre de véhicules par jour, en fait. Ah, okay. Sur les rouges, il y a beaucoup de monde. Sur les jaunes, c'est moyen. Et les blancs, c'est vraiment les routes locales qui desservent les bleds et tout ça. Mais évidemment, c'est là où c'est le mieux, quoi, en général.
Mais est-ce que les Cévennes, là, si on faut le délimiter, ça va d'où à où, alors, à peu près? Ça commence à l'est?
Non. Bah, ici, c'est très facile à délimiter, là. C'est exactement là, quoi.
Ok, mais c'est pas une bande, en fait. C'est vraiment un bloc, c'est ça?
Les Cévennes, tu sais, c'est la grande Cévennes, c'est un truc qui part qui est de l'ouest lyonnais, qui descend tout l'ouest de la vallée du Rhône, qui passe ici et qui meurt à Carcassonne avec la montagne noire. L'étymologie, je crois, j'ai lu des trucs comme quoi ça vient un peu des oignons, là, non? Cébola, Cévennes. Est-ce qu'il est le vert, il est là. Déjà, il y a un truc qu'il faut commencer à faire, à aller, c'est au Mont-Aigoual ici, quand même, qui est un peu le sommet des Cévennes du Sud, quoi, en fait. T'as deux massifs principaux, l'Aigoual et le Mont Lozère. Pour finir, faut vraiment faire ça. Oula, il est fatigué lui. Je parle du Stabilo. En tout cas, tu vois le chemin.
Ouais, je le vois bien. Ouais, c'est nickel.
C'est le plus court en plus. Et alors celui-là, il est spécialement beau à la descente. Après celle-là, elle est top classe. Là, il y a des magnifiques champs d'oignons en terrasse. Tu vois, alors après, là, tu vois, on a une petite route blanche par rapport à la verte, là.
Ouais, pourquoi?
Les deux sont marqués en vert. Alors là, par exemple, tu vois, tu te dis, comment, laquelle choisir? Parce qu'il va falloir joindre ce point à celui-là, si tu vois.
Ouais.
Et en fait, elles sont toutes les deux vertes, donc elles ont l'air bien. Mais tu vois, à droite de la jaune, tu vois le filet bleu, là?
Oui, oui, bien sûr.
Ça, c'est la rivière, parce qu'elle suit la rivière. Enfin.
Ouais.
Donc ça veut dire que la blanche qui est plus loin, elle va être plus haute.
D'accord, ok, ça va être sympa.
Donc plus panoramique.
Ouais.
Parce que, en fait, tout est dans les détails, tu vois. Là, ouais, comment elle arrive, comment l'autre, elle naît. Enfin, il y a tous les virages sur les cartes Michelin. Hein. Donc, c'est, tu vois, c'est, tout est juste, là, tu vois. Ces formes de dessin, ça, c'est pour ça que c'est les cartes, c'est les meilleures cartes routières. C'est pas les meilleures cartes pour randonner ou pour faire du vélo et tout ça, mais pour la route, c'est les meilleures. Ils arrivent à faire des effets de loupe de détails. De toute façon, une carte, c'est déjà un effet de loupe. C'est-à-dire que si les routes étaient aussi, dans la proportion de leur largeur de là, ce serait des immenses autoroutes, tu vois, dans les Cévennes. J'essaye de pas éblouir.
Et du coup, laquelle tu recommandes alors entre celles qui passent au long de la rivière? De faire les deux peut-être au retour, même si le retour il passerait plutôt.
Moi, je pense qu'il faut toujours partir par la plus longue pour pouvoir revenir rapide au cas où. Quoi. Ah ouais. Parce que, surtout si tu pars par une route rapide, t'as l'impression d'être pas allé loin. Et si tu rentres par des petites routes de ton point que tu crois pas loin, mais qui est par les petites routes super loin. T'arrives à 9h du soir, tout le monde a les boules, ta compagne est énervée, fatiguée, enfin c'est raté quoi.
J'adore cette trame narrative qu'on a construite. Super.
Et Olivier, ce que t'expliquais sur la rivière, ça veut aussi dire qu'avec une carte, t'arrives à voir quelle route va être la plus belle, la plus panoramique, la plus agréable à prendre, sans jamais l'avoir prise, en regardant la carte.
Ben ouais, non mais après c'est à vérifier parce qu'en fait il y a des choses théoriques, mais c'est pas évident. Par exemple là au Portugal, j'avais fait un tracé entre deux points qui étaient plutôt sur un plateau qui était en contrebas de montagnes assez hautes, dont je me suis dit on doit voir depuis le plateau les montagnes, ça doit être bien. Mais en fin de compte, c'était un endroit déjà qui était mal pratique au niveau des routes, c'était mal indiqué, donc il y avait aussi des trucs objectifs que les gens se paument pas quand tu fais un parcours. Et en fin de compte, c'était assez décevant. Il y avait trop d'arbres. Tu sais, parce que le paysage, ça commence comme ça. Hein. Juste ce qu'il y a autour de toi, si les routes bordées d'arbres, tu vois pas ce qui se passe. Quoi. Dans les forêts, tu n'as aucune perspective. Ouais. C'est pour ça qu'autour de 1200 mètres d'altitude, c'est assez beau par là. Parce que ça commence à être beaucoup plus bas. Donc ton regard n'a pas d'obstacle. Quoi. Et donc, moi, je cherche toujours, théoriquement, je qualifie celle du haut, la plus éloignée de la rivière, quand deux sont parallèles. Déjà parce qu'il y a moins de monde, toujours, parce que moins la route est facile, moins il y a de monde.
Ouais.
Et ça, alors bon, il y a sur carte, et le mieux c'est d'être sur place. Je regarde aussi sur Google Earth, mais toutes les petites routes n'ont pas la fonction Street View.
Ouais.
Donc tu peux pas vraiment. Déjà, je vérifie surtout pour le goudronnage des routes, parce qu'il faut passer toujours par des routes goudronnées pour les questions d'assurance, tout ça. Est-ce que tu sais pas tout le temps. Puis ça change, quoi. Il y a des routes qui sont. Par exemple, là, il y avait une route super qu'on peut plus utiliser en voiture. C'était celle-là, la rouge et blanc. Ça, c'est une crête totale, là. Hein, elle passe en 4x4, mais elle a été rétrogradée en route forestière. Mais sur des cartes identiques d'il y a quelques années, c'est une vraie route. D'ailleurs, tu vois, il y a marqué 13 km de là à là. Donc, quand tu as en général un kilométrage, c'est que c'est emprunté. Ça, c'est des cartes vraiment routières pour les bagnoles, c'est Michelin, etc. Ouais. J'ai essayé de la faire et tout ça, et à un moment, j'ai pas pu. Parce que, un creux fait par de l'eau, tu vois.
Ça passait plus.
Si j'avais eu deux planches, j'aurais pu mettre les deux planches passées et tout ça, mais c'était le truc à la con qui fait que t'es obligé de faire demi-tour.
Ça, et c'est joli, là, cette route.
Puis tu vois, donc là, on a l'Aigoual, donc là, on a le point haut, et après, ça part en étoile, tu vois. C'est un peu la sœur de celle-là, quoi.
Ouais, d'accord.
Comme il y en a une autre là. Qui vient mourir sur le Cos là, où tu peux aller jusqu'à Millau comme ça, où ça se met à descendre que à partir de là.
Ouais.
Et alors le truc des routes de crête, toi ce qui t'intéresse c'est d'être à la limite entre deux paysages.
C'est-à-dire que c'est là où tu as déjà le plus de paysages sous les yeux, donc tu peux déjà plus te rendre compte des grands systèmes de relief, de bassins, de tu vois. Et puis, moi, je trouve ça assez exaltant. Enfin, je veux dire, c'est la question du point de vue, quoi. Tout le monde adore les points de vue, les panoramas. On fait ça le dimanche en famille, tu vois. Tout le monde connaît ce sentiment, quand même, d'éprouver une grande géographie visible sous soi, quoi. Que ce soit en montagne ou ailleurs. Mais, évidemment, en montagne, c'est plus impressionnant. Quoi.
Mais il y a une différence, en même temps, entre le point de vue et la route de crête où tu restes pendant une certaine durée.
Bah, c'est la même que celle entre la photographie et le cinéma, mais... non, c'est ça, quoi. Enfin...
C'est-à-dire
Bah avec le mouvement, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu as les masses d'horizons qui bougent, tu vois. Enfin, vous avez déjà vu des points de vue dans les Cévennes, en fait. On voit plein d'horizons, en fait, qui sont de plus en plus bleu clair ou bleu foncé. Et bien, ça bouge entre eux, quoi. Ça glisse, ça fait des pixilations, comme ça. Ouais. Ouais, c'est la fascination de l'image en mouvement, quelle qu'elle soit, hein, de toute façon. D'où le cinéma. Qu'est-ce que je peux te faire d'autre? Je vais t'en faire plein, je vais les faire en orange. De toute façon, la ligne.
Du coup, de s'attarder ici, c'est bien une bonne.
La ligne maximum où tu peux aller, ça, c'est ça, c'est les gorges du Tarn. Après, ça change de monde. Où est-ce que je vais la prendre là? Si tu vois pas ça, tu vas tout droit sur la jaune. Quoi.
Ouais, c'est top.
De monter là. Ce qu'il y a, c'est que c'est ça le problème, c'est que en fait, je me suis rendu compte qu'avec les GPS, il y avait plein de gens qui savaient plus lire les cartes. Quoi. Ça, c'est comme avec les machines à calculer, les gens ils connaissent pas leur table et tout. Et donc, des fois, tu fais des cartes, mais tu as l'impression que des fois, c'est comme si tu l'avais fait le truc en langue étrangère, tu sais. Donc là, tu vois par exemple. 632, tu le vois là?
Ouais.
C'est l'altitude, hein, en bas. Là, 1247. Putain, la lampe frontale, ce qui est de chance, c'est que ça t'amène tous les moustiques dans la gueule. Donc là, tu sais que t'as.
C'est du truc, quoi. Ouais.
Voilà, ça, c'est les causes qui surgissent d'un coup. Donc là, c'est des tables calcaires. Et là, c'est les moutonnements comme on connaît des Cévennes. Puis tu vois, c'est juste la jonction. Alors là, c'est très intéressant parce que tu es à la jonction paysagère, à moitié sur le cause. Tu es sur le cause déjà, mais tu vois vachement bien. De toute
façon, c'est pour ça que je me demande si la voiture, c'est le meilleur moyen de visiter tout ça.
Si.
Ah ouais?
Mais en voiture, est-ce que tu arrives vraiment à regarder ce que tu as autour de toi?
Moi, l'idéal, ça serait effectivement d'avoir un chauffeur, mais qui répond au doigt et à l'œil. Tu lui dis, ah là, stop, recule de 10 mètres, parce que des fois, tu sais que c'est entre deux. T'as trop de forêt, donc des fois, tu sais que t'es sur une route en hauteur, mais t'arrives pas à voir l'horizon, parce qu'il y a plein d'arbres le long de la route, mais il y a un moment, pendant 2 mètres, il y en a pas. Donc là, t'arrives à voir loin, mais juste sur un tout petit axe, comme ça. Donc quand t'es tout seul, tu le fais, tout ça, tu demandes à personne.
T'as pas mobile, en fait.
Mais après, ça doit être chiant pour le. Ou alors, je sais pas, c'est un chauffeur de maître et tout ça, qui a l'habitude des caprices de son député. Ou... Franchement, t'es un monoblé, tu veux aller à Navassel, et là, t'as pas assez d'infos pour y aller.
Ouais, mais bon, comme l'idée, c'est pas de prendre le chemin le plus court.
Et alors, toi, comment t'as choisi monoblé?
Ben moi je te dis, pour des raisons objectives, géographiques, de cartographie. Moi j'ai cherché une certaine altitude à une certaine distance de la Méditerranée qui fait que ça faisait une bande de 10 km sur 200 entre les Corbières, là, l'arrière-pays de Perpignan, jusqu'au Rhône, jusqu'au sud de l'Ardèche. Mais si tu veux, quand tu cherches plus bas, que tu te rapproches des villes, les prix sont vachement plus hauts. Moi, c'était pas dans mon économie. Et puis après, derrière, j'aime bien y aller l'été, mais à 20 bornes au nord, je veux pas y être au mois de décembre. Ça caille, tu vois. Ça... Parce que t'es haut, t'es à 700 mètres, 800 mètres. Enfin, tu vois, c'est moyenne montagne déjà. Tu vois.
T'as délimité une bande et après, t'as fait village par village.
Ouais.
Pour aller voir à quoi ça ressemblait.
Ouais. Regarder les panneaux à vendre. Je faisais aussi. Les gros bleds aux alentours, là où il y a les agences immobilières, parce que là tu peux quand même checker des photos de trucs et tout ça. Et donc comme je voulais squeezer les agences immobilières, ce que je n'ai pas réussi à faire au final, hein, je mémorisais les façades et je les cherchais, et très souvent je les trouvais sur Google Earth. Et après je me rendais dans la rue, essayais de voir s'il y avait encore des habitants, ou de checker les voisins, je ne savais pas qui c'est qui vend, j'avais pas un numéro de téléphone, etc.
Le travail de fou.
Mais c'est génial. Ouais, mais c'est génial. C'est comme un espèce de travail d'enquêteur, comme ça, tu vois. Tu,
mais t'es dans le camion.
Tu cherches là. Ouais, avec le camion, ouais. Le camion, ça fait 10 ans, je l'ai d'ailleurs.
Et toi, t'as choisi vraiment pour ça.
Après, dans ces territoires, il y en a d'autres ailleurs, genre le Luberon, par exemple, ouais. C'est ça. Mais le Luberon, c'est... Ici, dans 20 ans, ce sera le Luberon. Ça se peut, ce sera hors de prix. Parce que, objectivement, il y a. Le climat est optimum, quoi. Et derrière. Là, vers le nord et l'ouest, c'est la hauteur tranquille, les Cévennes, les gorges du Tarn, les côtes. Non, c'est optimum.
Albonne Bruges, la radio monobloc.